Vous êtes sur RTL.
8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et à la une, le sud du pays sous la pluie.
9 départements en alerte orange, nous serons avec le préfet de l'Hérault dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, la fin de l'offensive en Syrie contre les Kurdes. Notre sondage sur les Français et leur épargne, la moitié arrive à peine à mettre 50 euros de côté chaque mois. Et puis la police fiscale créée par le gouvernement il y a tout juste un an est-elle efficace? Ce sera la question du 8h.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Alors que l'Aude reste encore très marquée par les inondations meurtrières de l'an dernier, on redoute une nouvelle fois le pire. Ce matin, 9 départements du Sud sont en vigilance orange. C'est dans l'Hérault qu'il pleut le plus. Hugo Hamelin, vous êtes à Saint-Clément-de-Rivière. C'est au nord de Montpellier où les intempéries devraient s'intensifier.
Effectivement, il pleut déjà beaucoup ici. Certaines routes départementales sont vraiment difficilement praticables. Ciré sur les épaules, Xavier vient d'arriver sur la commune avec son camion de chantier.
Ce matin, ça a été très difficile. On a eu franchement des passages très dangereux. Mais bon, là, pour l'instant, là, on vient sur la commune parce qu'apparemment, il y aurait des fossés un peu encombrés. Donc, on va venir un peu les dégager, voir le chantier s'il est en sécurité. Et puis s'il pleut trop, ben on rentrera. Voilà.
Donc pour l'instant, pas de chômage technique, les gars ils vont venir
travailler. Ah non, pour l'instant, on est là. Voilà. Maintenant, après, le restant de la journée va nous dicter ce que l'on doit faire.
Les orages devraient effectivement s'accentuer dans les heures qui viennent ici. Pas simple de livrer des journaux ce matin pour Karim, qui sillonne le village avec sa mobylette.
Ce matin, ça va, ça a été. Et là, ça commence à bien bombarder la pire. Un scooter, bah, ça se passe, on fait avec, hein, on n'a pas trop de choix. Combinaison obligatoire. Hein. Il y a des grosses flaques et ça tombe fort.
Pas besoin de lampadaire hein, ce matin à Saint-Clément-de-Rivière. Les éclairs illuminent très régulièrement les rues.
Merci Hugo Hamelin en direct de Saint-Clément-de-Rivière. Donc nous sommes en ligne avec le préfet de l'Hérault, Jacques Witowski. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur RTL. Quelle est la situation à l'heure où l'on parle ?
Eh bien, la situation est conforme à ce que vous avez pu relater ou ce qu'on peut voir sur les images de la télé. C'est-à-dire qu'il y a, nous avons une vague de très forte pluie qui est plutôt concentrée dans l'immédiat, dans la partie bitéroise du territoire, c'est-à-dire la partie ouest du département. Et les fortes pluies commencent dans la partie est, c'est-à-dire Montpellier. Pour que tout un chacun se rende un petit peu compte des quantités d'eau auxquelles on a été confronté dans le département, c'est 280 litres d'eau par mètre carré.
Donc c'est Béziers qui est très touché ce matin.
Ce matin, c'est Béziers avec une situation sur le Biterrois liée à des ruissellements. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de montée significative des cours d'eau. Ça viendra un peu plus tard.
Des habitants ont dû être évacués ou pas ?
Dans l'immédiat, on n'a pas d'éléments significatifs. Quelques automobilistes qui ont été surpris en prenant la route ce matin pour aller travailler par une montée des eaux et dont les pompiers ont dû faire des mises à l'abri. Mais pas d'évacuation au moment où vous le dites.
Donc des petits dégâts matériels pour l'instant, mais...
Pour le moment.
Oui, pour le moment. Est-ce que le pire est à venir ?
Moi, ce que je voudrais redire également par rapport au risque de submersion marine que nous avons cet après-midi, c'est vraiment réitérer des consignes de sécurité, c'est de ne pas s'engager sur des routes ou des axes sur lesquels il y a de l'eau. On peut tout simplement perdre ses repères, se retrouver dans un fossé, se retrouver en situation extrêmement délicate, et surtout également aux promeneurs, on voit trop de situations dans lesquelles des gens veulent prendre des photos de belles vagues et se mettre en danger, et derrière, c'est très très compliqué pour les sauveteurs.
Merci Monsieur le Préfet de l'Hérault, Jacques Witowski, merci d'avoir été en ligne ce matin avec nous sur RTL. Bonne journée.
Au revoir.
Et dans les Pyrénées-Orientales, les pompiers sont intervenus 80 fois, nous signale Patrick Tégéraud qui est sur place pour RTL. Des toitures ont été endommagées. Il a fallu évacuer des habitants. Le quartier bas d'Argelès-sur-Mer est inondé. La salle des fêtes est ouverte pour accueillir ceux qui sont en difficulté. Quelques départementales sont coupées. La voie rapide Canet-Perpignan pourrait être rouverte dans une heure.
Eh bien justement, Tony Kazmarek, on va faire un point sur la suite des événements météo de cette journée.
Oui, alors on attend encore d'ici à ce soir 50 à 100 mm de pluie en moins de 3 heures sur tous les départements en alerte. Donc d'abord l'Hérault, puis le Tarn et l'Aveyron ce matin. Ça se décalera en cours de journée jusqu'à l'est de la vallée du Rhône et la Côte d'Azur, donc y compris le Var, les Bouches du Rhône et le Vaucluse qui sont aussi en alerte. Et puis on surveille deux cours d'eau dans l'Aude dont le niveau grimpe actuellement, la Cesse et la Bère. Attention aussi aux fortes rafales de vent et donc à ce risque de vagues de submersion, surtout sur le littoral du Languedoc-Roussillon.
Anthony Kazmarek.
RTL Matin 8h04.
Alors est-ce lié aux inquiétudes autour de la future réforme des retraites, les Français ont mis plus d'argent sous le matelas depuis cet été.
La collecte nette du livre livret A a dépassé en septembre le milliard d'euros. Ce n'était pas arrivé depuis 8 ans. Mais encore, faut-il pouvoir mettre de l'argent de côté? Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. D'après notre sondage Odoxa pour RTL et Harmonie Mutuelle, un Français sur deux arrive à peine à épargner 50 euros par mois. Entre vouloir et pouvoir, il y a donc un gouffre. Illustration avec ce reportage de Vincent Serrano.
À 35 ans, Frédéric est intermittent du spectacle et depuis plus de 2 ans maintenant, il fait tout ce qu'il peut pour épargner 50 euros tous les mois.
C'est plus psychologique que pratique parce qu'en réalité, ça ne me laissera pas une fortune le jour de ma retraite. Il a déjà fallu que je me fasse violence pour mettre pas grand-chose.
Un Français sur deux économise moins de 50 euros par mois et pour lui, rien d'étonnant.
Je pense que quand on arrive à un certain stade, c'est à 10 balles près, quoi. Et je pense qu'on commence à être façonné à comprendre qu'on n'aura peut-être pas de retraite, donc c'est le fait de se dire qu'on a un peu d'argent devant soi.
Ce qui est quasiment devenu un luxe pour Candice, auxiliaire de vie, elle gagne 945 euros par mois. Impossible, dit-elle, dans ces conditions, d'épargner quoi que ce soit.
Alors on se dit que ce serait quand même bien de mettre 10 euros, 20 euros, 30 euros de côté, mais ce qu'on a mis dans une enveloppe de côté, par exemple, on est obligé d'y toucher parce qu'on n'a plus rien pour faire les courses. On se dit que c'est pas grave si on n'y arrive pas, on verra le mois d'après.
Et la raison principale de cette épargne?
Le futur, incertain. Difficulté des conditions de travail, licenciement abusif, les aléas de la vie, l'électroménager qui tombe en panne, etc.
Et pour elle, le compte est vite fait, 50 euros, c'est ce qu'elle a pu mettre de côté depuis le début de l'année.
Reportage signé Vincent Serrano.
RTL Matin, 8h06.
Les armes se sont finalement tues dans le nord de la Syrie.
Le cessez-le-feu a expiré hier soir, une semaine après le début de l'offensive turque contre les Kurdes. Ces derniers ont évacué la zone que voulait libérer Erdogan. Ankara ne voit plus de raison de poursuivre la guerre à ce stade, précise son ministère de la Défense. Bonjour Pierre Julien.
Bonjour.
Au final, chacun a obtenu ce qu'il voulait, sauf les Kurdes.
Oui, rappelez-vous, l'opération turque portait le nom de source de paix. Ankara l'avait choisi pour souligner l'objectif, assurer une zone frontière vidée de ce que Recep Erdogan appelle les terroristes. Eh bien, c'est gagné. Le retrait des unités de protection du peuple kurde est achevé. Il n'y a pas eu de nouveaux affrontements, mais 200, 300 000 civils, les familles entières, se sont retrouvés sur la route de l'exode. Ils ont ainsi perdu l'espoir d'avoir enfin un pays au moins un territoire autonome. Depuis Damas, le rallye improbable du moment, Bachar al-Assad, leur a bien fait comprendre les choses. Les Kurdes syriens sont donc finalement les malheureux cocus du triple cynisme turc, russe et américain. Erdogan a obtenu ce qu'il voulait, il n'a pas cédé à la symbolique menace économique US. Ses soldats et leurs sbires sont désormais bien implantés dans le nord de la Syrie, sur 120 km de long et une trentaine de large. Autre vainqueur, Vladimir Poutine. Les Russes avaient déjà des bases aériennes et navales en Syrie. Voilà qu'ils vont patrouiller dans la fameuse zone en côtoyant leurs homologues turcs. Un faux air de découpage type Pologne 1939. Et puis il y a Mr. Trump qui pourra toujours dire qu'il avait raison, que les maîtres d'école ont vite réglé la bagarre des gamins turco-kurdes, oubliant trop vite les morts et les blessés suite à son brutal abandon. Mais après tout, pour Washington, les militaires américains ont ainsi vu leurs effectifs renforcés en Irak. Alors juste partage de cette partie du monde, on attend le prochain tweet trumpesque.
Merci beaucoup Pierre-Julien. Yes but no, oui mais non, les députés britanniques approuvent l'accord du Brexit négocié à Bruxelles mais demandent encore du temps au grand dam de Boris Johnson qui a promis de sortir le 31 octobre. Les ambassadeurs des 27 se réunissent ce matin pour discuter d'un nouveau report.
Retour en France. Après la pause, le gouvernement n'interdira pas les listes communautaires qui concourent aux municipales.
RTL Matin, 8h08.
RTL. RTL Matin.
8h10, Jérôme Florin, Yves Cabi pour la suite du journal.
Ce n'est pas au gouvernement de décider qui a le droit de se présenter ou non.
C'est ce qu'indique une source à Matignon, citée par l'AFP ce matin, alors que plus en plus de voix se font entendre à droite, comme à gauche d'ailleurs, contre les listes dites communautaires. Elles fleurissent à 5 mois des municipales. C'est le cas de l'Union des démocrates musulmans français. C'est un nain politique 0,13% aux européennes, mais avec des pics dans certaines villes, 7% à Garges-lès-Gonesse, 6% à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Où s'est rendue Marie Mollet?
Ici, pas de local, pas de permanence de l'UDMF. Alors Fatoumata nous donne rendez-vous dans un parc, près des bars du Val-Fouret. Elle porte le voile et c'est l'islamophobie, dit-elle, qui l'a poussée à prendre sa carte.
On nous met de côté. On ne peut pas vous accepter parce que vous portez un boutis sur la tête. Et aujourd'hui, l'UDMF nous représente et pour moi, nous défend. Vous n'êtes pas rejeté. On va faire en sorte aujourd'hui qu'on puisse entendre votre voix.
Voilà pour les idées, mais elles se heurtent à l'épreuve du terrain.
À Mantes-la-Jolie, on est beaucoup de musulmans. Les musulmans, en fait, ne votent pas, les musulmans ne se sentent pas représentés, donc du coup, pour les faire adhérer à la politique, c'est très compliqué.
À quelques rues, un marché à ciel ouvert. Ici, on ne peut pas dire que le sujet passionne les habitants. Personne, ou presque, n'a entendu parler de cette liste.
Ça ne dit rien, quoi. Franchement.
Un désintérêt pour la politique.
Vous savez combien de temps vous n'avez pas voté ?
Oula ! Oh là 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 !
Depuis 2009, je crois.
2009. Ah. Près de 70% d'abstention dans la cité du Val-Fouret aux dernières élections. Mais ce parti n'est certainement pas un remède, selon Anissa, musulmane pratiquante.
Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on devrait créer une liste spéciale musulman. Non, ce n'est pas le rôle de la politique du tout. On est en train de tout mélanger.
En tout cas, un parti qui n'inquiète pas outre mesure Raphaël Cognet, maire LR de Mantes-la-Jolie.
La plupart des gens que je vois à Mantes-la-Jolie et qui sont musulmans n'ont absolument pas cette demande. Ce sont des gens qui sont dans la cité, qui votent régulièrement et qui n'ont pas de revendication autre que celle de pouvoir vivre leur foi librement.
Et pour lui, pas question d'interdire cette liste, il faut au contraire la combattre sur le plan des idées.
Le reportage de Marie Monet.
Alors, faut-il interdire les listes communautaires? Ce sera notre débat à 8h20 avec Éric Pouillat, qui est député En Marche de la Gironde, et Jean Préau, secrétaire général de l'UDMF, donc l'Union des démocrates musulmans français.
RTL Matin, 8h12.
Les ministres du budget et de la justice, main dans la main ce matin au siège de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France, c'est à Saint-Denis.
Gérald Darmanin et Nicole Belloubet, tout un symbole, un an après la promulgation de la loi contre la fraude fiscale. Le texte avait donné naissance à une police fiscale implantée à Bercy, des super contrôleurs pour chasser les délinquants en col blanc.
Alors, quel bilan un an après? Eh bien, c'est la question du 8h.
Et c'est avec vous, Christophe Ponzio, bonjour.
Bonjour.
D'après vos infos RTL, cette police fiscale a-t-elle prouvé son efficacité?
Écoutez, oui, hein, elle travaille. 2 à 3 cas par semaine arrivent sur les bureaux de ces nouveaux experts d'élite de Bercy chargés de débusquer les gros fraudeurs. Ce n'est pas rien. En revanche, la loi date d'il y a un an, certes, mais la police fiscale n'est active que depuis septembre, ce qui fait qu'en tout, seuls 18 premiers cas suspects lui ont été transmis par le parquet national financier en moins de 2 mois. 10 portant sur des avoirs, des grosses sommes d'argent cachées à l'étranger, 7 cas sur des affaires sophistiquées de blanchiment d'argent illégal et un seul cas sur une domiciliation fiscale fictive hors de France.
Et de quels moyens dispose cette police ?
Alors déjà de moyens humains, 25 officiers fiscaux judiciaires sont en poste, 14 autres en cours de recrutement et 2 fois plus d'enquêteurs d'ici à la fin de l'an prochain pour arriver à 50 agents. Et puis ce bras armé de Bercy peut procéder surtout à des écoutes téléphoniques, des perquisitions, géolocalisations, des filatures ou des gardes à vue pour traquer les super fraudeurs. Les liasses de billets qu'ils découvrent peuvent désormais être saisies. Des moyens, des pouvoirs de police donc, qui visent à désengorger la justice de ces dossiers fiscaux ultra complexes qui s'entassent. Il y en a plus de 200 en attente. Le gouvernement espère ainsi ramener plus rapidement les dizaines de milliards d'euros qui échappent chaque année aux caisses de l'État.
Et c'était la question du 8h avec Christophe Ponzio.
En football, le PSG s'est imposé hier soir à Bruges 5-0 en Ligue des Champions. 3 buts et une passe décisive signée Kylian Mbappé, entré en seconde période. Ce soir, Lyon affronte Benfica et Lille reçoit Valence.
L'histoire du jour?
Rester digne en toutes circonstances. Ce chef qui dirigeait dimanche l'orchestre de la Scala de Milan a su faire comme si de rien n'était, ou presque. À cet instant de l'œuvre, Muei Tang perd son pantalon.
Non.
Je vous assure que c'est vrai. Laissant percevoir un magnifique caleçon noir et des jambes qui ne doivent
magnifique,
pas souvent, et des jambes qui ne doivent pas souvent voir le soleil. Vous l'entendez, l'orchestre continue à jouer joyeusement et pendant ce temps, son chef se baisse et remet son pantalon. Voilà.
Remettez-nous un peu de musique un peu. Voilà. À ce moment-là, il a remonté son pantalon.
Exactement.
C'est parfait. Eh ben écoutez, on a passé un excellent
merci,
moment.
Monsieur, c'était très bien. C'était très bien.
De Funès?
Oui,
dans voilà. La Grande Vadrouille.
Dans la Grande Vadrouille, c'était donc le journal de Jérôme Florin.